29e édition de Théâtre en Mer. En regardant cette édition, je repensais à une phrase d'Antoine Vitesse.
Joli, joli mois de mai, pour toi qui connais tant de choses.
Peut-être on pourrait dire ça.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur Transistor, vous écoutez le 91e numéro d'En Spectateur, mais notre premier numéro consacré à Théâtre en Mai, le festival de théâtre de Dijon, qui met à l'honneur la jeune création théâtrale. Vous avez entendu dans le générique la voix de Benoît Lambert, directeur du Théâtre de Dijon-Bourgogne et directeur du festival qui a entamé vendredi sa 29e édition. Juliette et moi-même, Colline, sommes sur place. Bonjour Juliette.
Bonjour Colline.
Aujourd'hui, au programme de cet En Spectateur, deux spectacles, Friction, la pièce, mis en scène par Pauline Ringade, puis Mon ami n'aime pas la pluie, texte et mise en scène de Paul Francesconi, accompagné à la mise en scène par Fargas Assende et Odile Sankara. Pour commencer sur Friction, la pièce, Juliette, est-ce que tu peux nous en dire deux mots et nous dire de quoi il est question ?
Alors oui, il est question de rêves, d'espaces mentaux, ça part d'un point très précis et d'une société, et donc dans cette société particulière, il y a un manque d'espace, et donc on va voir comment l'espace peut être aussi l'endroit où va se déployer un rêve avec des formes, des images très particulières.
Oui, alors du coup, cette pièce, elle est centrale autour d'un personnage qui s'appelle Julius, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Qui est l'habitant de cet espace très, très restreint. Et on peut dire que cette pièce, elle est un peu faite en deux parties. Une première partie qui se passe dans la pièce, parce que vu que le titre de la pièce, c'est Friction, la pièce, mais c'est la pièce comme la pièce où l'on vit, et pas la pièce de théâtre.
Il y aura les deux.
Il y aura les deux, c'est ça. La première partie de la pièce, c'est la pièce où l'on vit, et la seconde partie, c'est la pièce de théâtre.
Oui, tout à fait. Il convoque dans la petite plaquette de présentation Beckett et Kafka, et ça pourrait prétendre un peu, enfin ça pourrait sembler un peu prétentieux comme ça de prime abord, et en fait c'est tout à fait justifié. Enfin, l'espace un peu miteux du départ, mais en même temps assez beau, avec des gestes répétés. Enfin, il y a tout le début du spectacle, on n'a pas du tout de paroles, c'est uniquement de la musique et des gestes qui se répètent pour qu'on comprenne qui sont finalement les quatre principaux personnages, quatre dont le musicien, mais on en reparlera, je pense. Et c'était vraiment ce motif de... Ça devient un peu absurde, mais finalement, comme on est dans le rêve, c'est pas si grave, mais en fait, est-ce qu'on est vraiment dans le rêve ou est-ce qu'on est dans un spectacle ? Et du coup, toute la deuxième partie, comme tu l'as dit, ça va tourner autour de... Est-ce que c'est un rêve dans lequel on rêve d'un spectacle ou un spectacle qui parle d'un rêve ?
Oui, et comme tu disais sur le début, en fait, c'est un ensemble de thèmes et variations sur le même thème d'une personne qui rentre chez elle. Et il y a un côté très chorégraphique au spectacle qui s'accompagne de musique, tu l'as dit. Alors je propose qu'on écoute un extrait pour entendre cette musique et se mettre un peu dans l'ambiance du spectacle.
La productivité de notre société est fortement enrichie par ce fonctionnement, il faut le reconnaître. Mais je dois dire que le temps me semble manquer un peu d'espace. Un espace où il pourrait s'étirer, passer, glisser. Un temps pour rien, où on pourrait tout faire. Y compris rien. Y penser au moins.
Entendre dans cet extrait la musique du violon très présente et qui est effectivement dès le début de la pièce. On a le musicien sur scène à court qui va faire des boucles de musique pour accompagner les mouvements des personnages, des trois personnages d'abord qu'on a, puis lui-même deviendra un personnage une fois qu'il aura fini sa musique.
Oui, c'est ça qu'il faut dire, c'est que ce que vous entendez au violon, en fait, ce sont plusieurs couches de musique superposées qui est jouée par un seul violoniste, et au fur et à mesure des enregistrements avec une pédale loop qui lui permet de superposer les couches de musique qu'il enregistre en direct, on obtient cette musique qui est elle-même une variation sur un même instrument.
Mm-hmm. Et oui, c'est vrai que ça se répond vraiment, les variations. Donc les trois personnages qui se... En fait, c'est... Donc on part d'une société, c'est exploité au début, mais bon, on pourra dire que c'est peut-être pas suffisamment exploité par la suite, mais moi j'ai bien aimé cette idée d'une société où le temps est très contrôlé, l'espace est très contrôlé, et donc trois personnes se partagent une pièce, donc ils doivent partir de la pièce toutes les 8 heures pour laisser la place à l'autre. Et donc ils ont 8 heures de sommeil, et le reste du temps est consacré à notamment leur travail et autres. Et donc on voit ces trois personnages se succéder rapidement pour qu'on comprenne chacun leur vie, mais finalement ils se ressemblent beaucoup, ils sont habillés de la même manière. Bon, chacun, une fois qu'il arrive dans la pièce, a ses petites habitudes, on les voit chacun, il y en a une qui regarde le matelas, l'autre qui essaie de dormir, etc. Et c'était très beau d'avoir à la fois cette superposition musicale qui devient presque... trop entêtante au bout d'un moment, un peu énervante, et cette superposition des personnages. Et c'est justement brisé pile au bon moment, je trouve que la parole arrive exactement quand on a compris comment s'enchaînaient les rôles des personnages, et quand la musique, on arrive à un point où on va commencer à ne plus la supporter, et ça s'arrête à ce moment-là. J'ai trouvé ça très juste.
Ouais, j'ai trouvé que c'était dans l'ensemble un spectacle très juste, voilà, qui est assez dans l'émotion. Visuel, en tout cas c'est extrêmement beau, et on vous invite à regarder l'image qui est mise sur le site de Transistor, cette cellule chambre dans le noir, c'est vraiment magnifique, on dirait un tableau. Mmh. Et en fait cet espace qui est si bien agencé, ils réussissent à le briser et à devenir et à transformer la scène pour qu'elle devienne autre chose, et il recrée le tableau sans cesse, ça change, tout est magnifique.
Mmh. Oui, c'est vrai qu'ils vont faire exploser cette cellule pour différentes raisons. Si vous n'avez pas vu le spectacle, on vous laissera découvrir si vous avez l'occasion de le voir. Mais ils font vraiment, ça laisse place à des images. Il y a des instants vraiment très poétiques et très beaux grâce à la lumière, mais grâce à même le matériau qu'ils ont au départ. Enfin, cette petite cellule, elle est un peu vieillotte, mais il y a des couleurs très jolies. Ça fait vraiment un petit espace comme dans un grenier où on découvrira un monde. Et on va avoir des images avec un cadre et des ombres projetées qui vont comme déformer le cadre dans lequel se trouve le ou les personnages, ça dépend des moments. Et selon, voilà, le mur sur lequel c'est projeté, ça fait des formes différentes. On va avoir des images avec du blanc au sol, une espèce de sable ou de sel très très blanc. Et pareil, grâce à des jeux de lumière et de perspectives, et grâce à la musique une fois de plus et au jeu, ça donne des images vraiment très belles et qui sont propices au rêve et qui rappellent sans cesse le rêve.
Ouais, et pour ces images, on peut peut-être dire du coup justement que le spectacle est en partie adapté d'un auteur de bande dessinée qui s'appelle Marc-Antoine Mathieu, que je ne connais pas, mais du coup on peut imaginer que l'univers visuel leur était cher.
Oui, tout à fait.
Et je trouve que cet univers visuel qui se déploie et qui se transforme, ça va avec cet humour. Il y a quand même de l'humour dans ce spectacle qui vire à l'absurde. C'est pour ça que la référence à Kafka est complètement justifiée, complètement assumée. On entre dans un monde de fous dont les personnages qui l'habitent ne se rendent pas compte de la folie de leur monde.
En même temps, ils essayent de nous faire croire qu'ils s'en rendent compte en essayant de rationaliser un peu le tout, en réfléchissant beaucoup à « bon d'accord, est-ce que c'est un spectacle ou est-ce que c'est un rêve ? Bon, si c'est un spectacle, il va falloir qu'on fasse ça, il faut qu'on parle du héros, il faut qu'on finisse comme ça, sinon ça marche pas. » Et il y a tout un moment où ils réfléchissent beaucoup, et on a eu cette musique très entêtante, trop entêtante parfois, mais... Et on a un moment de silence où ils réfléchissent, mais ils nous regardent, et il y a un grand silence, mais vraiment très très long, je pense que c'est le plus grand silence que j'ai jamais vu au théâtre. Et du coup, bon, au bout d'un moment, la salle attend, puis on commence un peu à rire, parce qu'on sent bien qu'il y a un malaise, mais qui est tout à fait volontaire, et du coup, c'est un malaise drôle, finalement, et j'ai adoré ce moment où on a eu ce silence, et le temps de les regarder vraiment, et de regarder la scène, et d'être dans le rêve, précisément parce qu'il y avait un silence très long.
Ouais,
et j'ai adoré ce moment.
Ouais, c'est vraiment un spectacle qui nous installe dans le rêve, et en même temps qui nous invite à ce rêve... ce rêve théâtral aussi, parce que on peut dire que on a parlé de quatre personnages principaux qui sont les acteurs, mais ces quatre personnages sont aussi accompagnés de tout un groupe qui sont en fait des amateurs qui viennent sur scène, qui occupent l'espace, enfin qui qui occupe un peu ce rôle de foule mystérieuse, un peu complètement anonyme dans les rêves qu'il peut y avoir aussi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un spectacle vraiment ouvert sur le théâtre, ouvert vers nous, les spectateurs. Ils nous embarquent vraiment dans cette histoire et dans leur univers. Et ça, c'est très agréable.
Oui. Moi, c'était vraiment un spectacle généreux et doux. Et on en est ressorti vraiment... c'est notre premier spectacle, donc Théâtre en Mai s'augurait parfaitement bien.
Alors pour résumer, on vous conseille très très fortement cette pièce qui nous a enthousiasmés et qu'on espère voir prochainement tourner en France. J'ai pas trouvé de date de tournée prochaine, mais j'espère vraiment tourner le spectacle. Tourner, s'il vous plaît. Alors c'est l'heure maintenant de se pencher sur le second spectacle, Mon ami n'aime pas la pluie. Là, nous avons une histoire un peu plus claire, un peu plus nette à vous raconter que cette histoire de rêve et de théâtre.
Ah, tu veux que je m'en charge ?
Juliette,
je m'en charge. Histoire claire, oui et non, enfin elle se présente comme claire, mais on a un personnage qui va être un peu le conteur de l'histoire, qui surgit d'une sorte de puits ou de trou au début du spectacle, et qui nous explique qu'il s'est réfugié dans la maison d'un couple parce qu'il pleuvait dehors, donc il s'est réfugié. Et le couple est monté à l'étage parce qu'il était effrayé par ce personnage. Et donc ce personnage s'est installé et n'est pas accepté. Et voilà, ça va être l'évolution de ce personnage, de comment le couple va finalement peut-être descendre d'où il se trouve pour voir ce personnage. Et avec ce personnage aussi est venu dans la maison de la pluie qui tombe, et des fleurs qui poussent dans cette maison, et la moisissure envahit les murs. Donc voilà, on a un univers d'emblée un peu mystérieux, fantastique. Enfin, ce personnage, au début, moi, j'ai pas tellement compris si c'était un homme ou pas. Bon, ça se clarifie peu à peu, mais... Enfin, si c'était une entité... Enfin, voilà, on sait jamais vraiment trop, au début. Et va se poser la question de la relation à cet autre. Et on a aussi tout... quelque chose qui se développe avec la femme qui est fascinée par la pluie, et donc elle, la pluie dans la maison, ça la gêne plus ou moins. Enfin, on a plein de... Donc le départ est très clair, mais on a plein de petits points de rupture ou d'incertitude où on se demande vraiment où le spectacle nous emmène et qu'est-ce qui est caché derrière ce qui est dit explicitement sur scène.
Oui, c'est vrai. C'est... Tu parles de comprendre ce qui est dit derrière ce qui est dit sur scène, derrière ce qui est dit dans le texte. Et c'est vrai que c'est un spectacle que j'ai trouvé très, très simple et très, très léger. C'est un spectacle que j'ai trouvé très léger et j'étais assez court aussi. J'étais vraiment étonnée que ça se soit terminé si vite. Enfin, on est vraiment pris dans l'histoire et on voudrait pas en rajouter pour en rajouter. Mais j'ai l'impression d'avoir vécu dans une bulle de 20 minutes. Alors que le spectacle en durait environ une heure.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas été aussi... Enfin, en sortant, tu m'as dit que t'avais trouvé que c'était assez court par rapport à la durée réelle. Enfin, ça t'avait paru court, pardon. Moi, j'aurais pu être prise dans une bulle, mais j'ai été un peu gênée par certains moments où le discours était un peu plus cru. Enfin, je sais pas si cru est le mot exact, mais on avait des paroles très poétiques, notamment de la femme sur son amour de la pluie. Et même le conteur, il était... Enfin, je trouve que ses répliques étaient assez merveilleuses. Et j'étais un peu déçue par des petits moments où... Je sais pas, je dirais... Enfin, où l'écriture était un peu moins poétique et belle, et moins juste aussi. Parce que... Je trouve que ça baissait... Enfin, ça nous faisait un peu sortir de ce qui s'était installé jusqu'alors. J'ai même été déçue qu'on comprenne au bout d'un moment que cet homme qui s'installait dans la maison, donc qui s'appelle Ram pour donner son nom, était vraiment un homme. Enfin, il y a plusieurs répliques qui nous font comprendre que effectivement c'est un être humain, je veux dire. Et moi, pendant très longtemps au début, je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est. Au début, je me suis dit c'est un rat ou une souris, parce qu'il nous dit qu'il a creusé un trou, qu'il a mangé ce qu'il y a dans le frigo, donc c'est un animal. Et puis peu à peu, on nous dit qu'il a fait venir la pluie avec lui, donc on se demande vraiment quel est ce... si c'est un farfadé ou je ne sais quoi. Et j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui tendaient à nous faire comprendre que vraiment c'était un homme, Et je sais pas si au final c'est vraiment un homme, mais j'ai été déçue de ces moments où moi ça m'a rabaissée dans l'imagination que ça développait au début.
Mais moi je me suis jamais posé la question, ça a toujours été un homme pour moi.
Ah, c'est vrai?
Dès le début, enfin un homme maudit, on va dire, et un homme qui est l'allégorie de bien de choses et de bien de gens qu'on ne veut pas trop remarquer.
Oui, c'est la figure de l'autre, quoi. Mais
ouais,
oui, je sais pas, un homme, enfin vraiment être humain, je suis toujours pas convaincue. Enfin, ça me dérange pas de rester dans l'incertitude, du coup. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette incertitude, ce flottement autour de ben, ok, c'est une allégorie, mais du coup, c'est. Oui, je sais pas comment dire ça, mais j'aimais bien ce flou qui flottait autour de ce personnage. Et en plus, oui, du coup, lui s'appelle Ram, ce qui peut faire écho à Am, et la femme du couple s'appelle Nell, et on a une sorte d'écho à fin de partie, avec aussi les ordures,
de
la
Beckett,
pourriture de Beckett. Et ces personnages un peu, justement, où on s'est mis des êtres humains, mis des créatures, enfin des hommes maudits, comme tu l'as dit, des créatures maudites. Et on a aussi cette intertextualité qui était intéressante.
Je vous propose d'écouter un extrait d'interview de Paul Francesconi, l'auteur et metteur en scène réunionnais, qui a gagné le prix inédit d'Afrique et d'Outre-mer pour son texte, qui lui a permis d'être édité chez Landman et donc d'être mis en scène aussi. On l'écoute.
Je croise les doigts pour que sa simplicité soit force poétique et touche. Qu'elle soit reconnue. C'est-à-dire que cet effort de simplicité poétique soit reconnu.
Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est donc Paul Francesconi qui parlait avant que la pièce ne soit montée. Et moi, j'ai envie de lui dire que c'est un pari réussi, que son ambition est réussie, parce que c'est vraiment vraiment ce qu'il dit qu'on retrouve dans la mise en scène, qui est très agréable, comme ça, onirique. Il y a vraiment une poésie de son texte et des situations. C'est cet amour de la femme pour la pluie. Il y a une ou deux tirades qui sont vraiment très belles, qui très touchantes.
Oui, mais je sais pas si sur la simplicité. Enfin, on l'a dit, l'intrigue est en apparence simple, mais en fait, elle cache plein d'endroits de questionnement et de petits imaginaires qu'on peut développer à la fin quand on sort. Et de ce fait, j'ai été un peu déçue, moi, par la mise en la scénographie. On avait un monticule de faux cailloux, enfin de fausses pierres, qui figuraient la chambre afin que le couple soit élevé, et donc on comprenne que la chambre était à l'étage, loin de cet être qui était, lui, vers un puits ou une table. Et on avait deux espaces distincts qui étaient côte à côte sur scène et qui en fait cohabitaient grâce à des éclairages différents. Et donc on comprenait que ça se passait dans la chambre ou ça se passait en bas, donc dans ce qu'on imagine être la cuisine. Et j'ai pas tellement aimé ces fausses pierres un peu moches qui faisaient un peu d'écho, enfin qu'on peut faire en modélisme, je sais pas quoi, j'ai trouvé ça un peu. Enfin, moi ça m'a. J'ai compris l'idée de la hauteur, mais j'ai pas été super convaincue par ça. Et pareil, le puits, j'ai bien aimé l'idée de rouille et ce jaune-orangé qu'on retrouvait aussi sur l'espèce de tapis qui tapissait la scène afin de recevoir l'eau, puisqu'il y a de l'eau qui tombe et qui coule au cours du spectacle. Et donc on avait ce contraste avec le puits, table, bleu et le reste jaune-orangé. Mais je sais pas si c'est parce que les personnages, eux, étaient habillés en couleurs plutôt neutres, enfin blanc, gris, noir, et d'avoir d'un seul coup ce jaune-orange très criard et ce bleu, enfin, j'ai pas trouvé ça très beau. Même si je comprends l'idée de rouille et de pourriture et de choses un peu pareil, malsaines qui est mise en place par la scénographie, mais je sais pas, il manquait quelque chose. Je trouve qu'elle cassait un peu la poésie, cette scène.
Moi, ce rocher, ça m'a renvoyé simplement à l'indétermination du lieu où il se trouve. J'ai eu l'impression que c'était un retour à la nature. Aussi quelque chose de. Voilà, c'est leur chambre, c'est leur lit, mais c'est un rocher. Ça m'a ramené aux hommes des cavernes, en fait. Je me suis dit, voilà, c'est la même histoire depuis qu'on dort sur des rochers. Qu'on dorme sur un rocher ou qu'on dorme dans un palace 5 étoiles, c'est la même histoire. S'il y a quelqu'un qui rentre chez nous, On veut pas le voir et on veut qu'il parte. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé dans ce spectacle, c'est aussi l'humour. Finalement, hier, on a vu deux spectacles qui étaient à la fois poétiques et à la fois dans un humour un peu absurde, on peut dire aussi. Enfin, dès le départ, on a cet élément absurde et fantastique, cet homme qui ramène la pluie partout où il va, même à l'intérieur des maisons. Et à un moment, il y a une rupture dans le spectacle, on va dire, où l'absurdité prend le dessus complètement et renverse les situations. C'est drôle.
Oui, c'est vrai que ça vient en plus vraiment à un moment où il propose une solution. C'est une solution complètement incongrue et d'un seul coup ça devient ok, pas de problème, on va faire ça, les trois personnages sont d'accord, alors que bon, il y en a un qui pourrait quand même être gêné par la solution mise en place. Et c'est vrai que ça arrive à un moment comme le moment de silence dans Friction, effectivement c'est vraiment bon voilà, et les deux ont leur affiliation avec Beckett et on revoit à chaque fois le truc de bon, enfin là on va proposer une solution absurde et puis tant pis. Et je trouve que on a parlé aussi du coup je reviens sur la scéno, pardon, mais on n'a pas parlé des sons, parce que du coup on a parlé du violon dans le spectacle précédent, et là on avait beaucoup de bruit, de grattement, de glissement, de frottement, enfin pour signaler la présence du personnage en bas. On a des moments un peu... Enfin, par exemple le début est très sombre et on a juste ces bruits de grattement et de gouttes d'eau qui tombent aussi pendant très longtemps. Et moi j'ai bien aimé cette... Enfin pareil, du coup les deux pièces qu'on a vues mettaient en place une ambiance rien que par une certaine atmosphère lumineuse et des bruits qui nous font peu à peu comprendre l'univers dans lequel on se trouve et qui nous invitent à y entrer de manière assez douce. Et j'ai bien aimé cet éclairage et ces petits bruits un peu étranges qu'on a au début.
Moi je parlerai pas de douceur parce que justement cette entrée en matière là, ces bruits de souris qui grattent, d'ongles contre des trucs métalliques. Ça m'a mis un peu mal à l'aise, mais c'était une manière d'entrer dans le spectacle. Aussi de se dire que c'est une pièce où on est un peu mal à l'aise, où on ne sait pas quelle sera la solution, on ne sait pas vraiment quel parti prendre. On comprend un peu tous les personnages.
Et du coup, même si cette entrée n'est pas forcément toujours en douceur, mais un peu, ça nous invite à un univers un peu froid et un peu... Enfin voilà, on se demande, finalement on est intrigué comme les personnages qui habitent au-dessus, qui sont réfugiés au-dessus. Et donc pour cette impression d'étrangeté et d'imaginaire une fois de plus décuplé, eh bien on vous invite également à aller voir Mon ami n'aime pas la pluie. Je sais pas si ça va tourner, mais...
Ça passe prochainement au Tarmac à Paris, les 6, 7 et 8 juin à 20h. Si vous êtes à Paris, allez-y.
Foncez, c'est vraiment très bien.
Et voilà, En spectateur, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez entendu Juliette Meul et Colline Lafontaine. Merci de nous avoir écoutés. Alors on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Nous parlerons alors de Soubresaut, mis en scène par le Théâtre du Radeau, et de La Bible, vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable, texte et mise en scène de Céline Champineau. En attendant, n'oubliez pas de vivre
en spectateur.
Et il y a toujours des nouvelles esthétiques, de nouvelles équipes qui apparaissent avec des nouveaux projets, donc c'est sans fin, c'est très heureux que ce soit sans fin.
Joli mois de mai, joli mois de mai, qui va tout changer, mois de mai.